nous continuons d'interpeller des dizaines, voire des centaines de ces immigrés clandestins criminels chaque jour. Et nous allons poursuivre cette mission.
Depuis plusieurs mois aux États-Unis, les manifestations contre l'ICE, la police anti-immigration se renforcent. La brutalité des politiques de Donald Trump a déclenché une vague de solidarité massive, portée par une colère qui ne cesse de grandir.
We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice.
Oh my God!
Oh! Mais si, il y a toujours un choix, Donald. La politique, c'est faire des choix. Et les tiens sont très clairs. Bonjour et bienvenue dans cette 9e visite de la saison 9 du Panthéon des Cousus. Cela fait longtemps qu'on avait mis les pieds aux États-Unis. C'est chose faite, merci qui ? Merci Donald et tous tes sbires de l'ICE à Minneapolis et ailleurs. Continuons ce début de Doc de Blast, sorti le 2 février dernier.
Le lendemain de l'exécution du manifestant Alex Pretty par l'ICE à Minneapolis, nous avons rencontré Henri Berry, militant très actif dans le mouvement de solidarité américain. Fort de son expérience, il nous livre une analyse de la situation politique américaine en phase de radicalisation.
One of the things they want to do is they want to be able to go in the streets and kill protesters, and this is exactly what we see them doing now.
Did they fucking kill that guy? Are you fucking kidding me, dude?
La police de l'immigration a déjà doublé ses effectifs en un an pour atteindre aujourd'hui 22 000 agents sur l'ensemble du pays. L'agence prévoit de continuer massivement sa campagne de recrutement.
À ça, pour jouer les cow-boys, il y a du monde au pays du Far West. Car on peut le dire, c'est documenté, non seulement l'ICE est un ramassis de mâles alpha en manque de masculinisme d'une part, et d'autre part, les centaines de personnes arrêtées arbitrairement chaque jour sont entassées dans des prisons privées, souvent loin de chez elles, et souvent sans motif réel.
Leur mission est de terroriser tous les habitants de la ville.
Le même 2 février dernier, la matinale de France Inter faisait un petit point sur la cérémonie des Golden Globes.
Les oreilles de Donald Trump ont dû siffler toute la soirée.
Oui, et ce n'est pas la qualité de la musique qui est en cause, puisque les Grammy Awards récompensent ce qui se fait de mieux dans l'industrie du disque. Mais le président américain et sa politique ont été abondamment critiqués dans les discours et dans le palmarès aussi, d'une certaine manière, à l'image des trois prix remis à Bad Bunny, star du reggaeton qui chante en espagnol l'amour de son île de Porto Rico, territoire rattaché aux États-Unis. Île flottante d'ordures, disait Donald Trump dans sa dernière campagne. Cette nuit, à Los Angeles, d'où vous avez suivi la cérémonie, Loïc Piala, l'ICE, la police de l'immigration, a été conspué.
Ce n'était pas le prix le plus important de la soirée, le Grammy du meilleur album de musique latine urbaine, mais Bad Bunny a prononcé le discours le plus marquant de la cérémonie.
Before I say thanks to God,
avant de remercier Dieu,
I'm gonna say,
je vais dire
ice out,
ice dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des aliens,
aliens,
nous sommes des humains et nous sommes des Américains.
Billie Eilish l'a suivi sur scène, badge Ice Out, Ice Dehors sur sa robe. La jeune Californienne a gagné le Grammy de la meilleure chanson de l'année avec Wildflower, le 10e de sa carrière. Pas sa préoccupation du moment.
No one is illegal on stolen land.
Personne n'est illégal sur une terre volée.
We just need to keep fighting.
On doit continuer à se battre, prendre la parole, à manifester. Nos voix comptent vraiment, les gens comptent vraiment.
Trevor Noah, le maître de cérémonie, ancien présentateur de l'émission satirique The Daily Show, a sauté sur l'occasion.
C'est un Grammy que chaque artiste veut au moins autant que Trump veut Groenland. Mais c'est logique, il lui faut une autre île pour traîner avec Bill Clinton maintenant que celle de Jeffrey Epstein n'est plus là.
Un bon clash, ça ne fait pas de mal. Perso, je retiens surtout la petite phrase de Billie Eilish. Personne n'est illégal sur une terre volée. Bien dit et bien vrai. Allez, petite plongée en mode indien de Tullera, la chaîne YouTube Geography by Geoff en novembre 2023.
Et comme d'habitude, tout commence avec les tribus indigènes de la région. Bien avant la colonisation européenne, le Minnesota abritait de nombreuses tribus, mais principalement les Dakota et les Ojibwés. La tribu des Dakota occupait principalement les terres dans la partie sud-ouest de l'État et les Ojibwés vivaient dans la partie nord-est. Étonnamment, bien qu'étant relativement voisins, les Dakota et les Ojibwés descendaient de groupes indigènes totalement différents. Les Dakota faisaient partie du peuple Sioux, tandis que les Ojibwés faisaient partie du peuple Anishinaabe. Mais comme nous le voyons tout au long de l'histoire indigène, les deux tribus ont vu leur vie complètement bouleversée avec l'arrivée des Européens dans la région. Les premiers Européens à poser les yeux sur ce qui allait devenir le Minnesota furent des explorateurs français à la fin des années 1600. Ces explorateurs français étaient attirés par le commerce des fourrures et sont arrivés dans la région en naviguant sur les Grands Lacs et en établissant des relations commerciales avec les tribus autochtones, notamment les Ojibwés et les Dakota. Dans les années qui suivirent, la région fut âprement disputée par la France et la Grande-Bretagne, changeant de main plusieurs fois avant d'être rattachée aux États-Unis en 1783 après la Révolution américaine. Après avoir pris le contrôle de la région, l'armée américaine établit Fort Snelling en 1820 au confluent du Mississippi et du Minnesota, qui devint une plaque tournante importante pour le commerce et l'activité militaire.
Pour schématiser, ce fort se trouve à la pointe sud d'un triangle, avec au nord-est Saint-Paul, la capitale administrative de l'État, et au nord-ouest Minneapolis, la capitale économique de l'État. En gros, en dehors de quelques villes sur le lac supérieur, c'est pas trop peuplé.
Mais tandis que la France et la Grande-Bretagne s'emparaient constamment de la région et que les États-Unis finirent par la posséder entièrement, ce sont en réalité les Allemands et les Scandinaves qui laisseraient la plus grande empreinte culturelle européenne. Attirés par la région après que des publicités eurent promis des terres arables gratuites, des milliers de Norvégiens, de Suédois, de Finlandais et d'Allemands s'installèrent dans le Minnesota. En 1940, près d'un quart de la population parlait l'une de ces langues européennes.
Et donc, peuplée d'abord par les peuples Ojibwés et Dakota, puis les Européens. Allez, soyons plus précis avec cet extrait de la chaîne YouTube Native American History en juillet 2023, traduite par IA.
Les Sioux sont l'une des plus grandes et des plus anciennes tribus amérindiennes d'Amérique du Nord, remontant à 2000 ou 3000 ans. Avec un territoire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres carrés à l'apogée de leur puissance, les Sioux sont l'une des tribus les plus connues et les plus influentes de l'histoire des États-Unis. Origine, les ancêtres des Sioux vivaient très probablement dans la région centrale de la vallée du Mississippi, puis dans le Minnesota. Peu avant 800 après Jésus-Christ, les Sioux sont arrivés dans les forêts du nord du Minnesota central et du nord-ouest du Wisconsin en provenance du centre du fleuve Mississippi. Vers 1300 après Jésus-Christ, ils ont adopté les caractéristiques d'une société tribale du nord et sont devenus connus sous le nom des Sept Feux du Conseil. Au sein des Sept Feux du Conseil se trouvaient sept bandes. Ce sont les bandes d'origine. Elles sont fondées sur la parenté, le dialecte et la proximité géographique. Il existe aujourd'hui divers groupes qui descendent des sept groupes d'origine et conservent leur autonomie dans la gouvernance de leur tribu. Les trois plus grands sous-ensembles de la nation Sioux sont les Lakota, les Nakots et les Dakota. Ce sont également les trois principales langues parlées par les Sioux. Dans tous les dialectes, l'eau Dakota et Nakot se traduisent par amis ou alliés, faisant référence aux alliances entre les bandes. Comme d'autres tribus indigènes, les Sioux croyaient que les animaux étaient des parents. Ils ressentent un lien spécial entre tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les esprits et les personnes. On pense que le grand esprit a créé l'univers et incarne tout ce qui s'y trouve comme un tout. Dans les années 1600, les Dakota Sioux commerçaient avec les marchands français, comme le faisaient d'autres tribus à l'époque. Les Français essayaient de prendre l'avantage dans la lutte pour le commerce des fourrures en Amérique du Nord contre les Anglais. Les bandes d'Odiwa, de Powhatami et d'Outaouais furent parmi les premières à commercer avec les Français. La première rencontre connue entre les Sioux et les Français eut lieu lorsque les explorateurs Rison et Grosillier atteignirent ce qui est aujourd'hui le Wisconsin au cours de l'hiver 1659 à 1660.
Bien sûr, les fans auront reconnu le thème composé par Carter Burwell pour le film des frères Coen, sorti il y a 30 ans, Fargo, North Dakota. La ville de Fargo se trouve à 340 km de Minneapolis. Après d'âpres défaites, le XXe siècle dessous, bien que sur le Mississippi, ne fut pas un long fleuve tranquille.
Les pensionnats avaient pour but de tuer l'Indien pour sauver l'homme, ce qui signifiait la destruction des sociétés autochtones. Les enfants étaient arrachés à leur famille. On les habillait à l'américaine, on leur donnait des noms anglais, on leur coupait les cheveux et on leur interdisait de parler leur langue. Leur religion et leur cérémonie étaient également interdites et proscrites. L'objectif était d'enseigner des études universitaires en anglais et des compétences professionnelles adaptées à la société américaine, comme l'agriculture, afin de remplacer les modes de vie traditionnels. Ces écoles étaient surpeuplées et présentaient de mauvaises conditions sanitaires, ce qui entraînait des maladies infectieuses et des fugues ou des décès d'élèves dans ces écoles. En 1934, la loi sur la réorganisation indienne cherchait à renverser de nombreuses politiques du passé en inversant l'objectif traditionnel d'assimilation culturelle des tribus à la société américaine. Elle mettait fin à l'attribution des terres, interdisait la saisie non consensuelle des terres, reconnaissait les gouvernements tribaux, encourageait la rédaction de constitutions tribales et donnait aux autochtones le pouvoir de gérer leurs propres ressources. Entre 1934 et 1945, les tribus votaient sur leurs constitutions gouvernementales, bien que certaines tribus aient refusé ou utilisé leurs anciennes constitutions. Au XXe siècle, le gouvernement a adopté peu de lois qui ont à la fois aidé et nui aux communautés autochtones. Alors que le mouvement des droits civiques atteignait son apogée, les Amérindiens fondèrent l'American Indian Movement.
Outre les peuples indigènes, présents bien avant les Européens puis les Yankees, faisons un pas de plus vers ce qui doit crisper vraiment Trump. Minneapolis est une ville de gauche, et pas qu'un peu si l'on en croit cette chronique de Xavier Mauduit dans 28 minutes du 26 janvier dernier sur Arte.
En novembre 1916, il y a des élections municipales à Minneapolis avec deux candidats qui se distinguent. D'un côté, vous avez un homme respectable, Otto S. Langen. Lui, c'est le shérif du comté. C'est un républicain. Et de l'autre côté, vous avez Thomas Van Leer, un mécanicien syndicaliste. Il est pire que démocrate, il représente le Parti Socialiste des États-Unis, le Parti Socialiste d'Amérique, qui a pour logo rien que moins que deux ouvriers qui se tiennent par la main avec l'appel de l'unité de tous les ouvriers du monde. Eh bien, c'est le socialiste qui l'emporte. Alors, il reste pas longtemps en fonction parce qu'il prend position contre la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'il n'est pas réélu en 1918. Mais enfin, en tout cas, c'est lui le premier, le seul maire socialiste de Minneapolis.
C'est une ville qui a souvent et longtemps été marquée à gauche.
Oui, déjà, c'est une ville industrielle. Alors, c'est l'industrie l'industrie céréalière avec des moulins, des minoteries gigantesques qui marquent le paysage urbain. En 1918 d'ailleurs, c'est là qu'est créé un mouvement, on peut le dire, original, le Minnesota Farmer and Labor Party, un parti qui unit les paysans et les ouvriers. Et dans ce monde-là, vous avez tant de choix politiques qui font qu'une image stéréotypée est associée à Minneapolis, c'est la ville de gauche. Mais dans le même temps, vous avez une autre image, et qui est moins reluisante, c'est l'image de la corruption, de la violence, du crime organisé, si bien que Minneapolis est doté d'un surnom, c'est Murderapolis, la ville du meurtre. Eh bien, les républicains se saisissent de ces deux images et les associent évidemment, notamment lors des grandes grèves, par exemple celle de 1934, grève des camionneurs à Minneapolis, une grève majeure qui a des effets dans tout le pays, parce qu'elle fait partie de cette histoire ouvrière où le mouvement se structure un tantinet de socialisme dans tout cela. C'est une ville qui s'agit dès qu'il y a des soucis. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez une figure majeure marquante, c'est un maire, Hubert Humphrey, qui est le maire de Minneapolis, qui d'ailleurs a été formé au parti dont je vous parlais, le Minnesota Farmer and Labor Party, et qui a une aura nationale quand il devient vice-président des États-Unis. Là, on est dans les années 1960, il est le vice-président de Lyndon Johnson. D'accord. Et donc, depuis les années 1970, tous les maires de Minneapolis sont des démocrates. Mais dans ce que le mouvement a de plus progressiste. Donc, vous voyez, une ville qui s'agit pour des revendications sociales, économiques et donc politiques, ça, aujourd'hui, tout le monde l'a en tête, et notamment les républicains qui ont cette image-là, sauf que, je vous disais, Murderapolis, la ville du meurtre, sauf qu'aujourd'hui, le meurtre, eh bien, il est commis par les autorités fédérales, par l'ICE, la police de l'immigration de Donald Trump, et c'est glaçant.
New York! Hometown New York!
1984, certes, Prince, natif de Minneapolis, est déjà une star. Mais j'ai préféré vous passer un titre du groupe The Replacements, Unsatisfied. Depuis le double meurtre à Minneapolis, des manifestations anti-ICE se déroulent quotidiennement partout aux USA. Là, je vous ai mis un petit concentré entre New York et la Californie, Chicago, la mégapole assez proche de Minneapolis, mais aussi Détroit, Seattle. Et l'on a clairement entendu l'anti-KKK, le Ku Klux Klan, de triste mémoire, mais de plus en plus résurgent dans les États du Sud. Et pas seulement. Dans 28 minutes, sur Arte, Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la fameuse revue Esprit, dessine un peu cette piste.
Qu'il admire les hommes forts, il s'en est pas du tout caché. Il admire Vladimir Poutine, il admire Kim Jong-un. Qu'il a des velléités autoritaires, ça me semble indéniable. Mais quand on dit fascisme, ça emmène vers la référence historique européenne. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut se référer à l'histoire politique américaine. Et ce qui me paraît évident, c'est que plus ça va, plus Trump puise dans un répertoire de la violence politique proprement américaine, hein, qui est celle du Sud esclavagiste, de la guerre de sécession, de la période de la reconstruction qui a suivi. Donc c'est cette violence raciste et c'est cette haine de l'État. Et ça, c'est très important et ça complique aussi le débat sur le fascisme. Parce qu'en fait, il fait appel, notamment en utilisant ses slogans sur le droit des États, à une sorte d'individualisme radical, où on pense toujours que l'État risque d'abuser de son pouvoir. Et c'est, je pense que c'est plutôt sur ce répertoire, mais qui est violent et qui est dangereux.
Do you think Donald Trump is a fascist?
Yes, I do.
Kamala Harris, fin octobre 2024, soit quelques jours avant les élections. Dans le même son, Trump assaisonne salement sa rivale, à la limite du supportable.
Il a dit plus d'une fois, vous savez, Hitler a aussi fait de bonnes choses.
Et tiens, allez, je vous mets le journaliste du Figaro, Nicolas Bavrez, sur Public Sénat. Impossible de me taxer de gauchiste, hein, si même la droite s'offusque de Trump.
Pouvoir personnel, confusion complète entre la famille Trump et les intérêts des États-Unis, conflit d'intérêts,
changement de la nature du régime,
corruption systématique, ouais. Suspension des contre-pouvoirs, suspension de l'état de droit, hypernationalisme et suprémacisme blanc, il faut être clair. C'est une révolution d'inspiration fasciste.
Effectivement,
ce qui est en train de se passer.
Que vous parlez des États-Unis, quand même. Hein.
Ouais. Oui, mais c'est ce qui se passe. C'est ce que les gens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus en Europe. Parce que, je reviens à l'histoire de l'apaisement. Quand on a des gens d'inspiration fasciste en face, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver.
Le mot est très fort.
On ne trouve pas de compromis. Ouais. On se met en position de résistance.
Nous voici rendus à la fin de ce voyage en Minnesota. Cette 9e visite de la saison 9 du Panthéon décousu est à retrouver en podcast et rediffusion dans la semaine. Mais nous n'y quittons pas sans musique et sans Bruce Springsteen, qui, au lendemain de la publication de Streets of Minneapolis, était le 30 janvier dernier, donc, dans le mythique club First Avenue, là où furent tournées des scènes entières du Purple Rain de Prince. Juste avant Henry, notre spécialiste, escalité des manifs politiques du coin, qui nous dit combien, pour lui, la guerre civile s'approche. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, profitez que notre beau pays n'ait pas encore inventé cette fichue ICE, la plus glaçante des milices légales et létales.
Everyone talks about civil war in America. One of the things my comrade Idris Robinson, if there's a civil war in America, it will be very bad for everyone in America, but very good for everywhere else in the world. And you know, maybe this is the best we can hope for right now, but that's what we have to offer.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26.
of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.